gentlemen. Guten Abend, bonsoir, good evening. Pickets, do you feel good? Comment ça va? Bien. Bon.
C'est parti pour la causerie ce soir, donc sur Radio Canu, évidemment.
À quelle fréquence
102.2 sur la radio FM, parce que sinon vous pouvez passer par Internet aussi. Hein. Voilà. Et autour de la table ce soir, nous avons Jean-Yves.
Bonsoir.
Fab.
Salut.
Clara la technique.
Bonsoir.
Et Jonathan.
Ah bah oui. Hein. Et on fait des bisous à tous ceux et celles qui ne sont pas là.
Voilà.
On leur fait des gros bisous et tout avec plein de bave.
Ok.
Ou pas, selon les envies de chacun et de chacune.
Oui. Hein,
on fait ça.
Oui, ça, okay. Voilà. Et puis, bon, bah, je rappelle que pour nous contacter, vous pouvez nous envoyer des petits mails à
lacauseriecanu@gmail.com.
Exactement. Merci Fab. Et pour venir visiter notre merveilleux blog où vous retrouverez toutes nos émissions et nos podcasts, ce sera sur
blogs au pluriel donc .radiocanu.org/lacauserie.
Et évidemment, vous pouvez nous suivre sur un des plus grands réseaux sociaux actuels. Voilà.
Mais encore une fois, écrivez-nous plutôt des mails quand vous voulez nous contacter. C'est ce qu'on consulte le plus. Tu as un problème, Jean-Yves?
Une résonance.
Ah, bon, c'est pas grave.
C'est pas grave.
Et donc, ce soir, nous commençons avec Jean-Yves qui va nous parler de l'exploitation 2.0.
C'est ça. En fait, j'avais envie de vous parler d'un truc, c'est parce que, étant dans une grande ville, on a quand même beaucoup de chance, on a beaucoup de nouvelles choses qui apparaissent, de manière plus intensive que dans d'autres régions ou dans des localités plus petites. Et ben, ce soir, j'avais envie de vous causer des livreurs et des livreuses qui sont à vélo et qui sont pas liés directement à un resto particulier, à un service, à un restaurant particulier, mais qui participe à un modèle économique un petit peu particulier. Et c'est pour ça qu'effectivement, je voulais parler de ça, de cette exploitation 2.0, parce que c'est très lié justement à cette nouvelle aussi économie, internet, etc. Alors, au fur et à mesure, je vous en parlerai, mais c'est que justement, je me suis rendu compte que ça touchait bien plus de choses, en fait, cette logique économique, que simplement et uniquement la livraison à vélo.
Ouais, mais là, en fait, les livraisons à vélo, c'est cool, ça donne des emplois, et c'est écologique, non?
Alors, ça donne des emplois, ouais. C'est écolo, ouais. Mais est-ce que ça suffit? Eh ben, je crois pas. Parce que, en fait, tout ça part d'un article aussi qui est apparu dans le journal de l'Humanité, c'était le 21 avril, et qui, alors lui, était carrément dans un truc qui s'appelait l'esclavage moderne, livré à domicile. Et effectivement, ça y relate, en fait, des témoignages de personnes qui font ce métier-là, de livraison, mais qui est vraiment un service en soi, qui, encore une fois, je le rappelle, c'est pas du tout lié à un resto ou à une pizzeria ou quelconque, c'est un service en soi. J'ai pas envie de les citer, en fait, parce que ça me ferait vraiment chier de faire de la marque, de la promo pour ces gens-là, Mais voilà, enfin, vous pouvez pas les rater quand vous vous promenez dans Lyon. Et donc, bah déjà, ces témoignages, ça en dit beaucoup. Pardon, je suis désolé. Ça en dit beaucoup. Et je me suis promené aussi sur les sites internet de ces marques-là, etc., pour voir un petit peu comment ils et elles vendaient ce superbe business, de la livraison. Et ben, eux, ils vendent ça comme j'aime beaucoup, comme un service livraison on demand qui permet de se faire livrer en moins d'une heure, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc déjà, ça affiche quand même clairement la chose.
24 heures sur 24.
Ben ouais, c'est ce qu'ils annoncent en tout cas sur leur site internet.
C'est assez dingue ça.
Et pour ça, c'est pour motiver aussi les gens qui veulent gagner, enfin qui veulent travailler pour eux. C'est gagner jusqu'à 35 euros de l'heure en roulant dans votre ville. Ou alors aussi 100% indépendant, 100% flexible, 100% avec le sourire. Et donc voilà. Et puis c'est aussi des trucs pour que toi, en tant qu'utilisateur, utilisatrice, tu l'utilises ce service-là. Ils te disent. Le client ou la cliente peut suivre le runner, donc le livreur, là aussi anglicisme, c'est tellement plus sympa, ça permet d'éviter le mot salarié ou esclave, tu peux suivre ton runner en temps réel. Donc encore pire que les patrons-patrons, c'est-à-dire que toi, en tant que client, tu peux devenir quelqu'un qui va vraiment tracer à la...
Donc ça sous-entend que les gens qui font ces métiers-là, sont équipés de matériel qui sont géolocalisés.
C'est ça. En fait, ils ont un téléphone en fait où le service internet va les géolocaliser. Comme ça, dès qu'ils reçoivent une commande, ils voient quel est le livreur ou la livreuse ou le runner. C'est tellement sympa, runner, qui est le plus près. Et alors, tout ça aussi, c'est lié avec des algorithmes, parce qu'il y a un des témoignages où il dit justement, la personne qui témoigne dit justement. En fait, il y a un algorithme qui prend aussi ceux qui font la commande, qui font la livraison le plus rapidement possible. Donc, ce qui fait que c'est un des éléments qui va favoriser ou non votre rapidité, le fait qu'on vous file encore d'autres livraisons. Et tout ça, c'est ça le point, à la rigueur, le summum du truc, c'est que vous n'êtes pas salarié. Toutes ces personnes qui pédalent pour ces livreurs ne sont pas salariés. Ils sont indépendants. Donc, entendez, auto-entrepreneur. C'était un truc qui était vachement vendu par la droite et tout. Enfin, il fallait être propriétaire et aussi entrepreneur parce que c'est vraiment sympa. Et effectivement, c'est vraiment très sympa pour ceux qui emmagasinent de la thune parce que c'est pas du tout la situation de ces livreurs-là. Même s'il y a des cas qui sont montrés un peu en exemple en disant on peut gagner jusqu'à 3000 balles, quoi. Ouais, mais on dit pas comment en fait. Donc, je voulais un peu résumer justement tout ce que ça engendre en fait, toutes ces choses-là. Parce que quand on dit auto-entrepreneuriat, c'est bien qu'il y ait une différence avec le salariat. Et toutes ces différences-là, elles se font sur différentes choses. Et ce qui change complètement la situation de la personne qui exerce le métier. Déjà, pour la couverture sociale et le chômage. Bah, c'est carrément pas pareil que les salariés. C'est-à-dire que vous n'avez pas du tout une protection identique. Et si vous tombez au chômage, la caisse des indépendants, c'est pas pareil que les autres. Hein ? Donc voilà. Le matériel est à la charge aussi du livreur. Là, je prends vraiment ce cas spécifique des livreurs, hein, mais c'est aussi extensible à plein d'autres cas, donc je vous citerai un petit peu après. Et donc, ça veut dire que tu achètes ton vélo, tu répares toi-même ton vélo. Donc, c'est-à-dire que tous ces fournisseurs de services n'ont absolument, absolument aucune charge, j'ai envie de dire. En tout cas, oui, des frais. Ils n'ont aucun frais, en fait, ou très peu.
Ça se voit parce que la plupart de ces sociétés, en fait, elles sont déclarées avec 1 à 10 salariés pour couvrir toute la France.
C'est ça. On en parle peut-être un petit peu après, mais parce que, ouais, effectivement, on a fait des recherches un petit peu pour voir tout ça. Je pense que c'est vraiment très intéressant. Et comme je vous le disais, vu qu'ils ne sont pas salariés, ces personnes-là ont des contrats, on signe un contrat commercial parce qu'ils sont prestataires de services auprès de ces boîtes. Est-ce que je suis assez clair? Ouais. Mmh. Ouais. Et ce qui fait qu'en fait, là aussi, quand on a un problème avec eux, on ne va pas au prud'homme. Ben non. On va au tribunal du commerce. Ce qui change aussi la donne. Le tribunal, le prud'homme, il y a quand même une parité entre salariés et patrons. Le tribunal administratif, c'est pas pareil. C'est majoritairement des gros patrons.
Le tribunal de commerce.
De commerce, j'ai dit quoi ?
Administratif.
Ah pardon, tribunal de commerce, pardon. Il y a aussi un autre truc. Vas-y.
Non, vas-y.
C'est les congés payés. Parce que vous, quand vous êtes salarié, enfin nous, quand on est salarié, si on l'est, ben vous engrangez des jours, etc. Et vous avez des congés qui sont payés. Ben là, en fait, tu l'as pas, parce que tu es auto-entrepreneur. Donc c'est à toi de te démerder pour gagner suffisamment de thunes pour que quand tu ne travailles pas, tu en aies. Voilà. Parce que ces gens-là sont payés donc à la course. Donc temps d'attente, pas payé. Alors... de mes relations, je connais des gens qui sont livreurs, mais qui sont pas sous cette couverture-là, mais ça veut dire que ces personnes-là, quand elles font une livraison, bah, quand il y a un temps mort, elles sont payées, parce qu'elles ont un temps de travail, etc., fixe.
Mais ces personnes, elles sont en contrat de travail avec la société qui les embauche pour livrer.
C'est ça. Sauf que là, encore une fois, on n'est pas dans ce cas-là, effectivement. Donc, et tu voulais... Toi, Jonathan,
non,
tu voulais...
Non, je t'écoute.
Et donc, voilà, donc ça veut dire... quand on est payé à la course, effectivement, pas de salaire fixe et pas d'horaire fixe. Et c'est justement tout le truc. C'est-à-dire que un des patrons de ces services-là est vraiment très... On gagne jusqu'à 3000 balles. Il y en a, il le dit. Hein. Certains peuvent gagner jusqu'à 4000 euros par mois sur la plateforme. Ben ouais. Et il dit, ils aiment la flexibilité qu'on leur propose. Ils peuvent travailler quand ils veulent, mais aussi faire du sport, puisque nos livreurs sont à bicyclette. Donc c'est vraiment génial, quoi. Tu vois, ton travail, en fait, c'est quelque chose qui te fait vraiment du bien.
En fait, ouais, la question que je me posais depuis tout à l'heure, c'est si jamais ils ont un accident de vélo.
Eh bien justement, en fait, c'est très 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 trouble, en fait, parce que moi j'ai eu 2-3 témoignages que j'ai lus, et en fait c'est tous, ils restent tous bloqués sur ce truc-là. C'est quand il t'arrive un accident, c'est pas la même. Et justement, c'est logiquement, c'est dépendant de leur statut donc d'auto-entrepreneur, qui encore une fois ne permet pas la même prise en charge des choses, en fait. Donc c'est tout un problème, vraiment, c'est un vrai problème.
En fait, ce qui est compliqué, c'est de se retourner contre le donneur d'ordre, parce que dans le schéma de ces trucs de livraison, en fait, la société pour laquelle il porte les fringues, elle n'est pas donneur d'ordre. Elle est mise en relation entre le resto et la personne livrée. Donc c'est pas le donneur d'ordre, en fait, en tant que tel. Finalement, le donneur d'ordre serait presque le restaurateur. Mm-hmm. Sauf que le restaurateur, il va dire, ah ben non, c'est pas moi qui ai demandé la livraison, c'est la société Tartempion qui m'a contacté pour dire qu'il y avait quelqu'un. Et du coup, comme vous n'avez pas de donneur d'ordre, ça vous retombe dessus en cas d'accident et vous n'avez pas d'accident du travail au final.
Mais c'est vraiment ça. C'est toutes ces boîtes-là, en fait, en faisant ça, se dégagent absolument de tout. Mais de tout, tout, tout. C'est-à-dire de cotisation pour les caisses, pour le chômage, pour tout ça. Ce qui fait qu'il y a une grosse part d'activité qui finalement amène de la thune, mais qui n'est pas redistribué par le biais des cotisations au bénéfice de tout le monde, quoi. Donc c'est vraiment une belle arnaque. Et après, comme tu le soulevais, Fab, c'est sur les lieux de résidence, on va dire des sièges sociaux. Il y en a quand même 2-3 où bizarrement leur siège social, c'est Luxembourg, Delaware aux États-Unis et la City à Londres. Autrement dit, des paradis fiscaux, en fait. Même si l'Europe dit qu'il n'y a plus de paradis fiscaux, on sait que c'est un petit peu plus complexe que ça. Et donc c'est vraiment, je trouve que là, on a vraiment une nouvelle structuration de toutes ces choses-là, et il y a des gens qui se motivent, il y a des gens qui font ces métiers-là, qui essayent de se regrouper pour essayer d'aller au prud'homme, pour faire requalifier leur contrat qui là est un contrat prestataire, en salariat. Parce qu'on pourrait se dire, mais ces gens-là, ils sont prestataires, donc ils sont assez libres, en fait. Sauf que c'est pas réellement le cas. C'est-à-dire que ces boîtes-là fournissent un téléphone, foutent aussi la pression quand ils sont en retard de livraison. Donc ça veut dire qu'on est dans un contrat de subordination. On est dans un rapport de subordination de ça. Ils fournissent les fringues, etc., etc. Sauf que ils sont très 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 malins. Ils arrivent à faire passer toutes ces choses-là pour toute autre chose que des conditions de contrat de subordination.
C'est un type de sponsoring, entre guillemets.
Alors là, pour les fringues, par exemple, ils disent que c'est pour l'hygiène. Et il y a un juriste qui dit, eh ben ils sont assez malins pour faire passer ça, ce qui fait que là, ça ne rentre même pas sous quelque chose de, oui, d'un contrat de travail salariat de pur et dur. Je pense que c'est vraiment très balèze. Et donc, il y a 4 personnes qui ont porté plainte, qui vont demander leur requalification en salariat. Ça se passe le 13 mai. Moi, je vais essayer quand même de suivre un petit peu le truc, parce que je pense que là, encore une fois, c'est une nouvelle forme d'exploitation qui paraît tellement plus sympa, parce que comme dit, on vend la flexibilité, on choisit ses horaires, sauf qu'en fait, on n'a aucune couverture. Et quand t'es dans la merde, t'es tout seul, parce que eux en ont absolument rien à battre, quoi.
Mais en plus, on voit que c'est des boîtes qui surfent sur l'underground, comme on dit, parce que ne serait-ce que dans leur mode de communication, c'est-à-dire affichage sauvage ouais. en ville, pour donner l'impression comme ça qu'on est des rebelles, ouais. alors qu'en fait, on est une multinationale qui se fait de la thune. Ouais. Et quand je dis multinationale, parce que les gens, quand je dis ça, ils ont l'impression que c'est forcément riche, une multinationale. Non, ça veut dire qu'on est sur plusieurs pays.
Hein, on et c'est le cas, là. Hein.
Et c'est le cas pour toutes ces boîtes, en fait, quasiment. Et puis surtout, ils dévoient même les mots comme entraide. Parce que là, ils dévoient le mot liberté, parce que finalement, il n'y a pas de liberté. On voit bien que c'est un contrat de subordination en tant que tel. Et aussi, ils vendent de l'entraide. Mais quand on vend de l'entraide, c'est plus de l'entraide. Sauf qu'ils arrivent à dire, on vous vend de l'entraide, quoi.
Ouais, parce que, alors, je fais juste ce dernier décroché, mais parce qu'effectivement, en fouillant un petit peu, je me suis dit, tiens, est-ce que c'est le seul milieu ? Et en fait, non. C'est-à-dire qu'il y a des trucs, des mises en relation de service qui existent pour t'aider à démonter un meuble. Et c'est vendu comme de l'entraide. Mais alors je suis peut-être hyper naïf, quoi. Mais l'entraide, c'est gratos, en fait. La solidarité, elle est gratuite. Quand vous allez aider quelqu'un, c'est gratos, quoi. Moi, mes amis, quand je les aide, ou quand eux, ils m'aident, il n'y a pas d'histoire de thune, en fait.
Un peu de bière, c'est tout.
Un peu de bière, mais ça, c'est, ça, c'est juste...
C'est la monnaie du peuple.
Ouais. c'est juste pour partager quelque chose. Et c'est vraiment ça. Et on en arrive, donc, moi, je suis tombé sur des sites internet, encore une fois, je n'ai pas du tout envie de les citer, où on a des gens qui disent, voilà, moi, j'ai deux meubles à démonter, etc. Et qu'est-ce que vous me proposez ?
Non, c'est, ils fixent une fourchette.
Et ils fixent une fourchette de tarot.
Moi, j'ai entre 100 et 400
balles. Et ça veut dire qu'en dessous, vous avez des personnes auto-entrepreneurs, auto-entrepreneuses, je ne sais pas si ça se dit, qui viennent et qui disent, ben voilà, moi je viens pour le faire pour, 300 balles. Il y en a un autre qui va venir ou une autre qui va venir en disant, moi je vous le fais pour 270. Et en fait, on est dans la logique qu'on dénonçait il y a quelques temps de l'Allemagne où des gens se vendaient au moins cher parce que c'est dramatique pour avoir du boulot, mais je pense que la logique est exactement la même.
Avec l'invention magnifique du statut d'auto-entrepreneur, magnifique étant ironique, par le gouvernement Sarkozy, en voyant en fait la faille juridique que ça représentait. Ouais. C'est pour ça que ça a été créé. Il y a 1,2 million d'auto-entrepreneurs aujourd'hui en France. On sait que sur ces 1,2 million, le salaire médian des auto-entrepreneurs, c'est 487 euros. C'est-à-dire que 50% gagnent moins de 487 euros. Donc on voit bien que c'est une belle arnaque et que c'est les fameux emplois à 1 euro qui existaient en Allemagne, par exemple. Bah, en fait, vous les avez en France, mais ça s'appelle auto-entrepreneur.
C'est ça. Ouais.
Mais comme ça sort du code du travail... Ça se voit pas trop.
Mais c'est exactement tout ça. Et puis, comme dit, enfin moi, ça m'a rappelé. Et puis dans l'article, il le soulignait aussi. C'est ce forme de ce qui existait avant le salariat. C'est-à-dire que les salariés, enfin les travailleurs ou les travailleuses, enfin cette manne de main là qui servait des prolétaires, bah ils venaient. Et puis il y a des gens qui venaient en disant, bah voilà, moi il me faut une personne pour ça, une personne pour ça. C'était un peu le marché moderne de l'esclave, on va dire. Hein, c'est avec peut-être des guillemets, mais ça y ressemble. Et finalement, je trouve qu'on y revient un petit peu, quoi. Donc, c'est vraiment très drôle parce que, en fait, dans cette société où on croit réinventer des choses, en fait, là, on fait un bond en arrière, mais je pense qu'il est vraiment phénoménal. C'est-à-dire qu'on en revient à une époque d'avant le salariat. Et les gens se sont battus pour justement donner un minimum de protection et de cadre aux gens, en fait.
Il ne faut pas oublier que le contrat de travail, c'est un contrat qui est contraignant. Qui est contraignant pour le salarié, mais qui est aussi contraignant pour le patron. Il est riche des règles, c'est ça qui est, c'est pour ça que dès les années 1900, les gens se sont battus pour qu'un contrat de travail au minimum à la semaine existe, parce que sinon, c'était la foire d'empoigne et les gens étaient virés du jour au lendemain ou autre. Non, en fait, le contrat de travail, c'est avant tout une protection au départ. Mmh. C'était vécu comme ça.
Ah ben oui, c'était
c'est
ça.
C'est pour ça que le patronat veut le faire sauter d'ailleurs, c'est pas pour rien.
C'est tout ça en fait. Donc voilà, enfin c'est encore une fois, je suis un peu étonné parce que vraiment des fois il y a des trucs hyper emballants. Enfin moi je voyais sur des sites un peu geek, les gens étaient ouais, c'est vraiment super, mais sans regarder derrière en fait la condition de ces gens-là. Donc et un autre exemple, c'est j'ai vu une vidéo d'une personne qui témoignait pour ce site-là et elle disait c'est trop bien, moi j'ai des horaires très compliqués et en fait, on se rend compte d'une chose, c'est que c'est un service des riches. Pour les riches, en tout cas, en utilisant une manne encore plus exploitée que les autres. Donc, en fait, on en revient à un truc assez basique et qui date depuis longtemps. Je crois que ça s'appelle la lutte des classes, en fait. C'est un vilain mot que plein de gens aiment pas le dire, même à l'extrême gauche, mais c'est la lutte des classes, en fait. Donc, voilà. Je pense que je vais m'arrêter là, quand même. Hein? Et puis, c'est tout. On passe à la musique ou vous aviez un truc à...
Non, ça va. Merci, en tout cas, c'était intéressant.
Mais je vous en prie. Allez, un peu de zik. vous êtes toujours à l'écoute de Radio Canu et La Causerie. Et nous venons d'écouter le trio Vantage qui interprétait Trio pour piano en sol mineur. C'était l'opus 17 dans le troisième mouvement et c'était une composition de Clara Schumann. Je fais une toute petite aparté. Clara Schumann était une des rares compositrices de musique classique du 19e. Et ben voilà, c'est aussi toujours dans la continuité aussi des Riot, des Guerilla Girls, pardon, de aussi ben voilà, de remettre un peu en lumière des artistes qu'on aurait un petit peu évincés de notre culture.
Et moi, je vais juste souligner que c'est une prise en direct sonore qui a été faite à Hong Kong au cours d'un dîner de gala. C'est pour ça que vous entendez des couverts à la fin derrière. Voilà, c'est tout. Mais on n'y était pas au dîner de gala, on a juste piqué la bande.
C'est ça. Et ben, deuxième sujet, c'est Jonathan, tu veux nous parler, je crois, des boîtes noires de Monsieur Cazeneuve.
C'est tout à fait ça. Alors, tout a commencé quand j'ai vu sur Facebook un article de Corben. Donc, pour ceux qui ne sont pas très au courant, Corben, c'est un journaliste, un type qui fait de la revue de presse et qui publie régulièrement sur Facebook des petits articles. Voilà. C'est assez intéressant pour commencer à s'informer sur un sujet. Bon, c'est rarement vraiment complet.
Non, vas-y, oui.
Mais, et donc, voilà, là, j'ai été un petit peu choquée parce que je vois marqué, il n'y a plus de... on a autorisé le filtrage des données Internet et il n'y a plus de liberté de la vie privée. Enfin voilà, donc l'article fait un petit peu peur et très très alarmiste. Et qu'est-ce qu'il raconte cet article ? Eh bien, il dit donc c'est un article qui est publié le 16 avril. Parce que dans la nuit du 15 au 16 avril 2016, qu'est-ce qui s'est passé ? Bah, 30 députés se sont retrouvés à l'Assemblée nationale. Ils ont dit allez les gars. On y va, on est chaud. Et ils ont voté une loi qui autorise le filtrage de toutes les données qui passent, donc Internet, qui passent sur le territoire français. Ils ont voté cette loi à 25 contre 5. Donc il y en a 5 qui n'étaient pas d'accord. Bravo messieurs. Et puis ils ont surtout fait ça sans vraiment demander l'avis de personne, puisque quand ils ont émis l'idée de cette loi, plusieurs juges, policiers, enfin... personnes de la haute administration se sont un petit peu insurgées en disant c'est n'importe quoi. Et donc cette loi sera finalement votée le 5 mai par le Sénat, donc voir si elle sera mise en application ou pas. Alors là tout de suite je vais vous proposer d'écouter un petit extrait de très exactement ce qu'a dit Monsieur Cazeneuve à propos des libertés du droit à la vie privée. Alors Clara, si tu veux bien...
aucune disposition dans ce texte de loi, aucune, qui soit attentatoire aux libertés, qui remette en cause la liberté d'aller et venir, qui remette en cause les libertés individuelles ou collectives, aucune, 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 aucune. Si vous voyez un article de ce texte de loi qui remette en cause les libertés, vous me dites où il se situe. En revanche, il y a des dispositions qui peuvent être considérées comme remettant en cause la vie privée et le droit à la vie privée.
Alors, je ne sais pas si vous avez entendu ce qui vient de se passer, c'était quand même tout à fait hilarant. Ce type défend très sérieusement, devant l'Assemblée nationale, que dans ce texte, il n'y a rien qui remette en question donc, le droit à la vie privée, donc le fait d'explorer toutes tes données, tout ce que tu fais sur le net, et que dans tous les cas, enfin, du moins, n'atteint à aucun droit fondamental. Et de fait, le droit à la vie privée n'est pas vraiment une liberté ni un droit, puisque finalement, la situation exige qu'on ait le droit d'accéder à toutes tes données. Donc voilà. Donc, enfin, je veux dire, réussir à faire passer ça et à le dire aussi bien, parce que c'est vrai que sur l'article de Corben, du coup, était titré. Le droit à la vie privée n'est pas une liberté. C'est un peu alarmiste comme ça, et puis c'est pas tout à fait ce que dit Cazeneuve. C'est bien pire ce que dit Cazeneuve. C'est que en fait, on a le droit de te retirer un droit si on considère que la situation l'exige, quoi. Enfin, en fait, tu n'es rien. Tu n'as pas réellement de droit acquis, et notamment en ce qui concerne l'individu et ses pratiques personnelles. Alors après, oui, je veux bien entendre qu'il soit compliqué de laisser des terroristes, etc., parce que c'est ça l'argument principal pour la mise en place de cette loi, c'est filtrer la menace terroriste. Mais bon, De là à dire que le droit à la vie privée n'est pas une liberté, ou du moins que le droit à la vie privée peut être remis en question par une loi, c'est quand même énorme. Alors, du coup, Corben a fait sa revue de presse à partir d'une source qui est Numérama, qui diffuse cette vidéo donc, de Cazeneuve, où vous l'entendez prononcer cet extrait qui vient de vous être passé. Et puis, vous avez des personnes qui sont intéressées à cette loi, notamment Isabelle Attard, qui a un petit site qui ne paye pas de mine, mais qui est intéressant, qui s'appelle isabelleattard.fr. Donc, Attard, A-T-A-R-D, tout attaché et en minuscule, et qui est un site assez simple, un tantinet acide, hein, ce qu'il faut de petits coups de gueule, et puis qui propose donc des liens pour se renseigner sur la loi, mais aussi des liens vers des groupes qui ont décidé d'aller contre la loi. Donc c'est assez simple, hein. Il y a une liste de liens, puis il y a tout un tas de commentaires, notamment des personnes, comme je vous disais en début de chronique, des administratifs qui se sont dit que cette loi ne valait pas la peine d'être appliquée. Donc voilà, le fait est qu'on est face à une loi qui a été mal promue, contre laquelle beaucoup de personnes respectables, avec des grands guillemets, se dressent. Et surtout, en fait, c'est une loi qui s'accompagne d'une mesure pratique, c'est la mise en place de boîtes noires. Et alors là, je trouve que c'est le point le plus magnifique de toute cette histoire, parce que qu'est-ce que c'est qu'une boîte noire ? Eh ben, vous savez pas. Moi non plus, et personne ne le sait.
Enfin, personne, à part ceux qui vont l'utiliser.
À part ceux qui vont l'utiliser. Et encore, je me demande des fois s'ils sont bien au courant. Alors, a priori, voilà, selon un article dans Le Monde, ce type de boîte noire, ce serait... alors, il titre quand même, hein, « La boîte noire reste obscure ». Je trouve ça assez rigolo, mais voilà, c'est un système d'analyse automatique qui serait installé chez les fournisseurs d'accès, donc en gros sur au départ de leur débit, hein, et puis qui permettrait de filtrer tout ce qui passe chez tous leurs abonnés, enfin voilà, toutes les informations téléchargées, échangées, etc. Et puis, l'installer aussi chez les hébergeurs, parce que bon, les fournisseurs d'accès, mais il y a aussi les hébergeurs, tout ce qui est site de streaming, etc.
Alors, parce qu'en fait, pour peut-être clarifier pour les auditrices et auditeurs, il faudrait se souvenir que tout ce qui est numérisé passe par le même tuyau. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, avant, vous aviez le téléphone, ça passait pas par le même tuyau, c'était des lignes de cuivre et tout. Maintenant, vous avez tout, c'est ce qu'on appelle en IP, donc c'est-à-dire que tout est numérisé. Votre conversation téléphonique, ce que vous regardez à la télé, ce que vous faites sur Internet, enfin, tout est captable, en fait. Et c'est ça, en fait, dont ils rêvent, c'est de pouvoir tout capter en se mettant au début du tuyau, quoi.
C'est exactement ça. Ouais. Enfin, l'image ressemble vraiment à ça, c'est-à-dire comme avec un filtre... Enfin voilà, et puis on retient ce qu'on a envie de retenir. Donc à partir de là, c'est pas sûr que ça se présente exactement sous cette forme-là, mais ce serait le principe d'une boîte noire. Et surtout, ça s'accompagne aussi de la mise en place, enfin on crée des emplois avec cette loi. Voilà, j'ai envie de dire. Donc la mise en place d'une commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, des technologies de renseignement, pardon. Et du coup, ça veut dire qu'on va mettre en place une délégation d'humains, donc comme vous et moi, mais qui, eux, vont s'occuper de regarder tout ce qui est passé à travers la boîte noire. À savoir, on réhabilite, comme tu disais, pendant la prépa FAB, les renseignements généraux ou l'espionnage interne. Donc, c'est... Voilà. Bon, enfin, en termes de respect des libertés individuelles, c'est...
Mais en fait,
c'est fabuleux.
En France, on adore faire des trucs comme ça, c'est-à-dire qu'on fait des comités théodules, comme on dit, c'est-à-dire où on met des gens qui ne servent pas à grand-chose. Il y a un très bel exemple, c'est la CNIL. La CNIL qui est censée quand même vérifier l'ensemble de la gestion des outils de vidéosurveillance et de numérosurveillance, comme ils disent maintenant, la surveillance numérique. En fait, c'est bien que ça existe, sauf qu'il n'y a tellement pas assez de monde dans ce comité que de toute façon, ils ne peuvent pas être partout. Donc, et vu la démultiplication des moyens de surveillance, la CNIL, elle est bien gentille, mais en gros, elle ne regarde que des dossiers. Et donc, elle fait confiance au gars qui installe le truc. Donc, c'est un peu étrange, quoi. Vous dites, oui, ne vous inquiétez pas, je mets ça, mais ce n'est pas pour surveiller mes salariés, par exemple. C'est juste parce que je veux voir où ils se trouvent dans l'espace. Oh, bah ok, vas-y, amuse-toi. Enfin, c'est un peu... voilà, c'est le genre de... comme on n'y met pas de moyens, de toute façon, c'est des choses qui ne servent à rien, on le sait. Quoi.
C'est ça.
C'est des commissions vides, quoi.
Il y a un petit côté aussi, c'est plus dissuasif qu'effectif.
Ouais.
C'est un coup de bluff, entre guillemets.
Mais moi, j'ai une question, en fait. Ils vont interpeller les choses comment, quoi ? C'est sur des mots-clés,
Certainement, il y a toute une liste de mots-clés qui, comme celle qui existe déjà hein, dans
d'accord.
le
donc
filtrage.
On ne pourra plus dire rutabaga sans craindre.
Mais en réalité, déjà comme tu disais Fab, ça va être compliqué de tout contrôler. Après, il y a des algorithmes qui calculent aussi. Et puis surtout, j'ai envie de dire si... Alors voilà, passons à la véritable essence de ma chronique. Soit on est un vrai terroriste et on veut poser une bombe, et dans ces cas-là, j'ai du mal à me dire, je vais envoyer un mail à mon pote et je vais lui dire, alors demain j'arrive avec ma ceinture d'explosif à 9h pétante, t'as intérêt à être là, tu vois, donc je t'attends, des gros bisous, à demain, tout ça. Par mail, sur Gmail notamment qui appartient à Google, etc. Mais bref, nous y reviendrons. L'association de mots fait qu'il y a possibilité dans ceinture d'explosifs demain 9h qu'il y ait une association qui puisse éventuellement servir le... Mais bon, voilà. Mais ceci dit, est-ce que tu as vu la petite bombe là-bas à 9h ? Je veux dire, c'est le même genre de choses. Et puis bon, ça sera peut-être repéré différemment parce que ça prend quand même en compte le langage argotique, ce genre de choses. Alors après, jusqu'où ça va ? Moi, je pense qu'on va pouvoir en profiter pour repérer beaucoup d'autres gens, en fait. Donc, à savoir, pour commencer, tous les trafiquants de tout et n'importe quoi sur Internet, hein, que ce soit de la drogue, des fringues, des bijoux, du parfum, des trucs comme ça. Enfin, j'en sais rien, mais il y a énormément de ventes. Je pense qu'ils se font en sous-main grâce à Internet. Je pense que ce qui va se traquer aussi, c'est tous les pirates du web. Parce que toutes ces personnes qui finalement sont quand même un petit peu inquiétantes dans le paysage politique, même si on n'en parle pas trop, parce qu'il ne faudrait pas montrer que ça fait peur. Et puis, après, le citoyen lambda, c'est toujours la récupération de données, c'est toujours le moyen de te cibler davantage pour te rendre meilleur consommateur, etc. Alors, avant de vous laisser, et sur un cri défaitiste, etc., on peut se protéger de cette surveillance, on peut se protéger notamment par divers moyens. Alors je pense que une chronique aura sûrement lieu sur toutes ces questions très prochainement dans la causerie, mais pour introduire un petit peu la chose, on peut utiliser par exemple ce qu'on appelle les VPN, qui sont des Virtual Private Network, donc à savoir des réseaux virtuels privés qui permettent en fait de cacher ta provenance, il me semble.
Mm-hmm. Ouais, c'est genre, tu écris, et quand tu remontes l'adresse IP, ça t'envoie sur le commissariat du 7e, par exemple.
Par exemple.
Alors que voilà, tu n'es pas du tout au commissariat du 7e.
Alors voilà, je pense que... Voilà. S'il doit venir nous expliquera ça un petit peu plus professionnellement, mais en effet, ça ressemble un petit peu à ça.
Non, mais c'est ça, parce que c'est connu, en fait, cette histoire du commissariat du 7e qui sert de point d'ancrage de pas mal de VPN, ce qui c'est assez drôle.
Mais du coup, c'est parfait. Enfin, tu peux te connecter sur le commissariat du 7e pour télécharger les films et les revendre au black. Voilà. Et puis, après, il y a d'autres moyens aussi de se protéger un petit peu, notamment d'éviter de faire graviter ces données sur le cloud en ayant un NAS, donc une espèce de disque dur personnel, de serveur personnel qui permet de garder un maximum de données comme si c'était sur Internet, sauf que c'est contenu chez toi. Et puis après, voilà, utiliser au maximum le chiffrement de fichiers, la dissimulation du URL. Et ça, en fait, il y a un site qui propose... et alors là, je suis en train de me rendre compte que je n'ai pas noté le nom. Et alors, c'est magnifique. Mais dans tous les cas, voilà, quand vous allez sur l'article sur Reflet Info, il y a un article également qui parle de ces boîtes noires de Cazeneuve. Vous avez un lien qui permet d'aller vers un autre site où ils expliquent un petit peu comment fonctionnent tous les moyens de se cacher sur Internet. Alors, je suis désolée pour cette dernière partie un peu brouillon, cher auditeur. Je commence à fatiguer.
Mais sinon, vous pouvez aller faire un tour chez Framasoft aussi. qui est un groupement de gens qui font du libre et sur lequel il y a des tas de choses à piquer comme ça, enfin gratuitement à récupérer, ou sur le chiffrement, sur comment, enfin ouais voilà, comment éviter toutes ces petites boîtes noires qui se baladent.
Comment ne pas se faire trop repérer. Et enfin pour revenir à l'article et terminer enfin. De vous rebattre les oreilles avec ces histoires de boîtes. Genre dire finalement, voilà, cette loi, c'est quoi? C'est une loi qui est illégitime parce qu'elle passe à l'Assemblée la nuit comme beaucoup d'autres lois. C'est une loi qui porte atteinte aux droits fondamentaux puisque malgré les propos de Cazeneuve, c'est quand même important d'avoir une vie privée et c'est dans... Enfin, c'est dans ce qu'on considère comme étant fondamental. Enfin, on n'a pas le droit d'espionner un individu, on n'a pas le droit de venir lui soutirer des informations sans son accord. Et puis, on a toute une partie de la population qui est opposée au projet de loi et on nous dissimule certaines informations. J'ai envie de dire, c'est normal que les citoyens, la population, se défendent vis-à-vis d'une agression pareille de l'État de manière illégale. On ne peut plus faire confiance à l'État, on ne peut plus être dans la légalité. Voilà.
Ok. Bah, en même temps, après, je me dis, en fait, ils sont capables de nous faire ingurgiter n'importe quelle connerie pour notre sécurité ou pour la soi-disant sécurité du plus grand nombre. Parce qu'en même temps, je suis toujours, je suis sûr qu'il y a une partie de plein de gens qui sont super motivés pour justement dénoncer tous ces trucs-là. Et ce que je crains tout le temps, c'est l'apathie générale. C'est-à-dire qu'une majorité silencieuse qui finalement ne dit plus rien, ne fait plus rien et que.
La phrase la plus assassine, c'est « Mais moi, j'ai rien à me reprocher, on peut regarder ce que je fais. »
Ouais, mais ça, c'est des... Ouais.
Mmh. Ouais. Sauf qu'en fait, c'est pas vrai, parce que vous avez rien à vous reprocher. Tout dépend du pouvoir qui se trouve au-dessus de vous. Mmh. Et le jour où vous avez un pouvoir qui décide qu'on doit vous éliminer, ça va être très facile. Mmh. Petit cours d'histoire, de temps en temps, ça fait pas de mal.
On passe à la musique.
Et c'était Thousand Modes, je ne sais pas si je l'ai très bien dit, avec Klaus. Donc c'était le titre et le premier mot c'était le groupe.
Voilà. Merci.
Et du coup, tu vas nous parler, Fabien, d'un petit sujet commémoratif.
Ouais,
pardon.
On va dire ça comme ça. C'est souvent dans la causerie, on revient sur des thèmes un peu écolo. Puis là, c'était les 30 ans de Tchernobyl. Enfin, c'est pas un anniversaire, parce que j'ai entendu Ségolène Royal qui disait que c'était l'anniversaire de Tchernobyl. Je trouvais ça un peu bizarre, mais elle s'est rattrapée après en disant le triste anniversaire, mais enfin bon, c'est pas un anniversaire, c'est plutôt une commémoration. Alors Tchernobyl, tout le monde se souvient de ce que c'est en 1986, l'explosion d'une centrale nucléaire au graphite qui explose au nord de l'Ukraine. Et en fait, c'était à l'époque sous l'URSS, hein, pour mettre un peu d'histoire en mémoire. Et en fait, cette centrale était une sorte de copie des premières centrales qui avaient été envisagées en France. Voilà, donc on pense qu'il y a, vous voyez, c'est un petit peu... Tout est lié, hein, c'est-à-dire que l'industrie nucléaire française a toujours été au fleuron. Hein. Enfin voilà. Non, mais blague à part, c'est des milliers de morts et c'est des milliers de personnes qui sont contaminées. C'est surtout ça qui est important de se souvenir. Et en fait, la centrale de Tchernobyl, elle a émis un nuage parce qu'en fait, elle était au graphite, donc elle a pris feu. Et ça a fait un nuage radioactif qui est allé se balader sur toute l'Europe et en particulier. Sur l'Europe de l'Ouest, voilà. Il paraît qu'en France, elle s'est arrêtée à la frontière. Par contre, c'est marrant, on retrouve quand même du césium-137 en Alsace et en région Rhône-Alpes. Et je vous rappelle que le césium-137, ça ne peut être émis que du cœur d'une centrale nucléaire et que la seule qui est pétée à proximité, c'est Tchernobyl. Donc, il semblerait bien que le nuage, il est un peu passé au-dessus de la France. Et il est aussi pas mal passé au-dessus de la Corse parce que c'est la troisième région française où on retrouve un taux de césium-137 très élevé. Et donc, c'est la preuve qu'il y a une contamination assez large. Voilà. Alors, ça se voit d'autres effets, hein, c'est notamment l'augmentation des cancers de la thyroïde chez les femmes en particulier. C'est le cas en Alsace, c'est le cas en région Rhône-Alpes. Donc, voilà, et c'est aussi énormément le cas en Corse. Dans certains coins, ça a été multiplié par 17 par rapport au cancer de la thyroïde avant 1986. Donc, on voit bien qu'il y a une forte corrélation et qu'il n'y a pas de doute à avoir. Quoi.
Mais alors, est-ce que cette corrélation, justement, elle est... unanimement accepté par les forces politiques.
Alors, par les scientifiques, oui. Par les politiques, non.
D'accord.
Pour être très clair, c'est-à-dire que j'ai pas vu de revue scientifique qui mettait en doute le lien de corrélation ou alors vraiment des trucs un peu foireux faits par des proches des gros lobbies,
oui,
genre Areva ou EDF. Mais par contre, dans la communauté scientifique au sens large, il est admis très clairement qu'il y a un lien entre corrélation entre accident nucléaire et augmentation de certains types de cancers. C'est d'ailleurs tellement admis que c'est le moyen de vérifier le taux de contamination. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est avec la corrélation des cancers qu'on arrive à voir si une région est contaminée ou pas. Parce que la radioactivité, c'est très compliqué. Hein. Quand elle est disséminée, c'est très compliqué de savoir où elle se trouve exactement, tout ça, tout ça. C'est déjà utilisé aux États-Unis depuis des années, parce qu'il y a eu l'accident de Three Mile Islands avant Tchernobyl, qui était la fusion, la fonte d'un cœur du réacteur de la centrale de Sellafield. Et depuis, les Américains font des mesures assez régulières du taux de cancer, notamment de la thyroïde, dans la région qui entoure cette centrale. Oui, parce qu'elle n'a pas été démontée, hein, parce qu'une fois que ça a pété, on ne sait pas démonter. Quand ça pète, en fait, on met des trucs dessus, puis on espère que ça ne fuira pas. Hein, c'est à peu près tout ce qu'on sait faire quand il y a une accident nucléaire. Le dernier exemple en date, c'est en Fukushima, hein, pour ceux qui ont suivi. Alors, Fukushima, ça a explosé. Là aussi, parce que on n'avait pas su anticiper les risques, hein, faut être très clair, c'est qu'on avait testé, et si un tsunami, et si un tremblement de terre, mais on n'a pas fait, et si un tremblement de terre et un tsunami, pas de bol, c'est ce qui s'est passé. Donc voilà, du coup, on a aujourd'hui des dizaines de milliers d'hectares de terre qui sont contaminés, des dizaines de millions de mètres cubes d'eau de mer qui sont contaminés, et des dizaines de milliers de personnes aussi, malheureusement. Et donc, c'est-à-dire que on estime aujourd'hui que Fukushima aura des répercussions sur au minimum une trentaine de générations. Voilà, j'ai bien dit 30 générations. Hein. Parce qu'en fait, la dissémination des matériaux radioactifs qui sont sortis du cœur ont une durée de vie extrêmement longue, estimée en moyenne en demi-durée de vie, c'est-à-dire pour perdre la moitié de leur radioactivité, entre 10 000 et 34 000 ans. Donc c'est assez long, hein, quand même, voilà. Et pour vous dire, je reviens à Tchernobyl. Tchernobyl, en fait, on estime qu'il va falloir 24 000 ans pour que le cœur soit moins dangereux. C'est-à-dire qu'il soit plus dangereux, mais qu'il soit moins dangereux. C'est-à-dire qu'il puisse être approché. Ce qu'on a fait aujourd'hui à Tchernobyl, c'est qu'on a mis, on avait mis au début un premier sarcophage dessus en espérant que ça tienne. Bon, il a tenu 30 ans, mais en fait, il fuit en réalité depuis 15 ans. Hein. Donc voilà, on sait que depuis 15 ans, il rebalance des saloperies régulièrement à droite à gauche, c'est super sympa. Hein. Donc là, on vient de faire un super méga giga bien sarcophage, hein, vous voyez, qui est censé tenir 100 ans. Alors faites un petit calcul de tête, ça veut dire que nos descendants vont devoir faire ça 240 fois pour être sûr que rien ne s'échappe encore de cette centrale qui a explosé. C'est, pourquoi c'est important de retenir ça? C'est parce qu'en fait, on nous dit que c'est sûr le nucléaire, mais en réalité, c'est pas réellement sûr. Effectivement, c'est une des industries où on essaye de faire le plus attention à ce qu'aucun accident industriel ne se produise. Et heureusement.
Et pour cause. Hein.
Et pour cause, parce qu'on voit bien qu'à chaque fois qu'il y a un accident démesuré. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui non seulement touche en local, c'est-à-dire là où il y avait la centrale nucléaire, mais aussi à l'international, avec les nuages qui peuvent se dégager. Et aussi, sur des espaces qui sont beaucoup plus grands que ce qu'on pensait. Au moment de Tchernobyl, on estimait que la radioactivité s'émet, comme on dit, c'est-à-dire se mettait sur 10 km² autour de la centrale. On s'est rendu compte très vite qu'on passait largement les 10 km², on arrivait en fait à plus de 20 km de la centrale. Pardon. Pas 10 km, si c'est un cercle, pas de 10 km², mais 10 km à partir de la centrale ou 20 km à partir de la centrale. Et en fait, on voit bien qu'en réalité, on est bien plus loin que ça. Aujourd'hui, on sait que Tchernobyl, c'est plus de 100 km au-delà de la centrale. Et ça, c'est pour les retombées dites lourdes. C'est-à-dire de matériaux qui sont très radioactifs. Qui sont très radioactifs et qui sont en grande quantité. Mmh. Et après, vous avez toutes les micros, ce qu'on appelle les micro-quantités, mais qui sont extrêmement toxiques, qui sont celles qui se sont, par exemple, baladées avec le nuage de Tchernobyl et qui sont allées se balader, comme je vous le disais tout à l'heure, dans plein de régions. En Allemagne, aujourd'hui, il y a des champs où on n'a plus le droit du tout de cultiver parce qu'ils ont été arrosés par le nuage de Tchernobyl et qu'on retrouve aujourd'hui un taux de radioactivité supérieur à plus de 50 fois la radioactivité naturelle. Voilà. Parce qu'il y a une radioactivité permanente. Hein. Et donc, on voyait disséminer 50 fois le taux, c'est-à-dire que c'est énorme, quoi. Et ça, c'est avec des micro-poussières, c'est pas avec des kilos. Donc voilà. C'est ça qu'il faut bien avoir en tête. T'as dit quelque chose?
Non, c'était, je sais plus pourquoi, mais c'était, tu l'as dit après.
D'accord. C'est pour ça. Je vais rappeler que donc, l'Europe préconise aujourd'hui que les gens qui se trouvent à 100 km autour d'une centrale soient équipés de pastilles d'iode. Je vais juste rappeler que les pastilles d'iode, ça empêche juste le cancer de la thyroïde, mais alors ça vous empêchera pas les autres cancers. Mais bon, c'est vrai que c'est un premier truc qu'on peut faire pour éviter d'avoir ce qu'on appelle le cancer immédiat, qui est le cancer de la thyroïde. Bon, après, ça protège pas de la radioactivité.
Ça empêche pas les malformations, non, tout ça.
Mais c'est un premier truc qu'on peut faire, voilà. Et donc, la Belgique, par exemple, vient de décider que tous les Belges seraient équipés de pastilles d'iode parce qu'il n'y a pas un seul Belge qui est à moins de 100 km d'une centrale nucléaire. Entre les centrales françaises et belges.
Mais justement, et en France, en fait, parce qu'on a quand même 58 réacteurs en France.
Ouais, 58 réacteurs, ouais, donc voilà, ça fait beaucoup.
D'accord.
Alors, comment je pourrais vous dire ça sans être trop alarmiste? Non, en fait, c'est pas compliqué, c'est qu'en France, ça couvre à peu près 3/4 de la population française, parce qu'il y a un tout petit parti de la France où il n'y a pas de centrale nucléaire. Donc c'est assez énorme, en fait. Et puis surtout, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est l'accident, quand il arrive, il a des conséquences très larges. Donc je vais donner un exemple qui est, alors c'est pas moi, c'est pas le réseau sortir du nucléaire non plus, c'est la CRIRAD qui donne cet exemple-là. La CRIRAD explique par exemple que si une centrale qui est le long du Rhône venait à exploser demain, ou même avoir juste une grosse fuite, vous voyez, un truc qui pourrait se produire, ça contaminerait l'ensemble de la vallée du Rhône, c'est-à-dire de l'endroit où est la centrale au nord et au sud, parce qu'en fait il y a l'effet nuage et puis il y a l'effet induit par l'eau qui va drainer pas mal de saloperies. Et en fait, ce problème-là, ça fait que globalement on aurait la première zone de production de fruits et légumes qui serait contaminée. Je vous rappelle que la vallée du Rhône est le premier producteur de fruits et légumes en France. Voilà. Donc c'est pas rien, hein, vous voyez, c'est pas ça. Alors sans parler après des conséquences sanitaires qu'il y a sur l'être humain, mais ne serait-ce que dans conséquences immédiates, il y aurait ça. Donc voilà, ça paraît très bête, hein, mais c'est juste énorme. Et puis je vais quand même rappeler pourquoi on a des centrales nucléaires. C'est pas pour faire de l'électricité pas chère, contrairement à ce qu'on nous vend. C'est avant tout parce que quand on a une centrale nucléaire, on a du plutonium par des effets tout simples de filtration du cœur. Et que quand on a du plutonium, on a...
la bombe nucléaire!
Ah, ben voilà, vous avez tout compris. Voilà pourquoi on a des centrales. Parce qu'en fait, pour avoir la bombe atomique, il faut arriver à avoir du plutonium pas cher. Et pour avoir du plutonium pas cher, le plus facile, c'est de passer par les centrales nucléaires. par le cœur des centrales nucléaires et par les systèmes de filtration qui permettent de récupérer le plutonium. Et que donc, en fait, tous les pays qui ont beaucoup misé sur le nucléaire sont des pays qui, en fait, voulaient la bombe atomique. Ça se voit à des choses toutes bêtes. Les États-Unis ont des centrales nucléaires alors que les États-Unis ont une réserve de pétrole énorme qui leur permettrait de faire toute leur énergie avec les barrages et le pétrole. Pourtant, ils ont quand même fait des centrales nucléaires. Et pourtant, les Américains, c'est pas les derniers à rouler avec du pétrole. Donc, s'ils ont fait des centrales nucléaires, c'était avant tout parce qu'ils avaient besoin de plutonium pour avoir la bombe atomique. Voilà, pour être très clair, c'est ça l'idée. L'Angleterre est un bon exemple aussi, qui pendant des années n'a pas eu de centrale nucléaire, qui pour avoir la bombe atomique achetait son plutonium aux Américains, et qui d'un seul coup s'est rendu compte que ça la rendait dépendante, et pour ne pas être dépendante, elle a fait un programme nucléaire. Bon, la France... dire très très vite, le général de Gaulle qui voulait la bombe a lancé le programme nucléaire sur le sol français. L'Iran aussi, parce qu'on a beau dire que l'Iran ne veut pas la bombe atomique, à un moment donné on ne s'amuse pas à faire des centrales nucléaires quand on a une réserve de pétrole sous le cul comme l'Iran, pour simplement faire joli. C'est toujours un rapport à l'énergie.
Et c'est pour ça en fait que tous les pays, enfin les cinq pays, France, Angleterre, États-Unis, etc., elles sont tellement attention. Il faut pas que l'Iran ait la, parce qu'ils savent en fait que le nucléaire civil, parce que eux-mêmes l'ont fait,
sert à
créer une bombe atomique en fait.
Le Pakistan et l'Inde par exemple sont un bon exemple. L'Inde a lancé un programme nucléaire aussi pour avoir la bombe atomique. La plupart des pays en fait qui ont la bombe ont un programme nucléaire ou vont avoir un programme nucléaire assez rapidement. Donc voilà, c'est la Chine aussi, la Corée du Nord, enfin je ne vous les fais pas tous, mais voilà. Donc vous voyez, c'est le lien, il est assez évident, et en fait en réalité c'est une prise de risque énorme pour la population, on le voit avec les différents accidents qu'il y a eu, au profit d'une autre prise de risque énorme qui est celle de rayer la population de la planète avec des bombes atomiques. Finalement, le nucléaire, c'est quand même le truc le plus antidémocratique qui existe, puis c'est avant tout un truc de Midas, hein, comme on l'aura compris. Donc il faudrait peut-être qu'on commence à réfléchir, à se dire que l'idée, c'est pas juste sortir du nucléaire parce que c'est pas beau, c'est pas propre, ça c'est vrai, mais c'est aussi que derrière, il y a une idéologie militariste, et il faut s'interroger aussi dessus, parce qu'elle a des conséquences fortes au niveau de ce qu'on pourrait appeler la géopolitique mondiale. Voilà. Je voulais juste rappeler ça pour les 30 ans de Tchernobyl.
Mais je crois que tu fais bien de le rappeler. Je crois qu'on se rappelle jamais suffisamment que l'idéologie militariste prend source, ou en tout cas c'est comme une pieuvre, c'est tentacule un peu partout en fait, et que il y a souvent une logique de nation forte, etc., derrière toutes ces choses là en fait.
Avant de passer de la musique, je voulais juste te dire, il y a un film qui s'appelle Les enfants de Tchernobyl qui est à voir, qui était une journaliste qui avait été allée filmer les enfants qui avaient des malformations ou qui ont été tombés malades du fait de Tchernobyl, et en fait il y a une personne qui a repris l'idée et qui va faire Les enfants de Tchernobyl 30 ans après. Et en fait, ce qui est le plus terrible, c'est qu'il a trouvé plus de cas que la première des reporters. Donc on voit bien que voilà, sauf que ces enfants, personne ne les voit, et qu'on fait comme s'ils n'existaient pas. Aujourd'hui, à Fukushima, autour de Fukushima, au Japon, on sait qu'il y a des hôpitaux qui sont classés secret défense, où en fait, on ne veut pas que... Alors pour l'instant, ce n'est pas des enfants mal formés qui naissent, parce que l'accident est assez récent, même s'il va y en avoir, et on le sait. Non, c'est plutôt les gens qui sont irradiés dans la réparation de la centrale, la tentative de réparation de la centrale, mais en fait, comme je disais, c'est pour mettre une grosse chape de plomb dessus, et puis on espérait que tout se passe bien. Et ces gens sont irradiés extrêmement fortement, donc développent des maladies très rapidement. Et en fait, on ne veut pas que ça se sache, on ne veut pas que ça se voit. Donc c'est les nouveaux liquidateurs, ceux qui avaient été sacrifiés à l'époque de l'URSS. Vous voyez, dans le Japon, qui est soi-disant une grande démocratie capitaliste, on fait comme en URSS, on met une grosse chape de plomb sur les gens qui sont en train de mourir, et on dit non, 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 tout va bien. Voilà.
Tu veux dire capitalisme, communisme ?
Je veux dire que le nucléaire est avant tout une idée qui n'est pas démocratique, et donc par définition qui n'agit pas de façon démocratique.
Voilà. On passe à la musique ?
Oh oui.
Thank you. Clap, clap, clap. Oui, vous êtes toujours à l'écoute de La Causerie sur Radio Canu. Et on vient d'écouter Hiromi Uehara avec le titre XYZ.
Waouh, bah, c'était vachement fou.
Oui.
Ouais. C'est les images aussi sont assez barrées.
Oui, oui.
Je la trouve sur YouTube, c'est ça
si on C'est ça, sur
ouais, truc, c'est mais ça. YouTube. Ouais,
et c'est une jazz woman. Ok, ouais, vraiment, vraiment frappadingue, c'est sympa.
C'est ça. Bon, et bien vu qu'on a dépassé l'horaire légal, il y a la police qui va venir nous arrêter. Parce que l'autorité canadienne les aura appelés. Non, je déconne. En fait, non, on va finir très rapidement. On va juste vous donner une brève, en fait, un rendez-vous cette semaine. On n'a pas trouvé d'autres choses, même s'il doit y en avoir. Hein. On n'a pas la science infuse. Et ce rendez-vous, c'est donc le mercredi 3 mai. C'est un rendez-vous devant le commissariat de Villeurbanne.
C'est mardi.
J'ai dit ?
Mercredi.
Oh pardon.
Le 3 mai, c'est mardi.
Non, en plus, je l'ai noté en plus mardi 3 mai. Pardon. Donc c'est un rassemblement devant le commissariat de Villeurbanne. C'est un rassemblement contre les violences policières et aussi en soutien à la CNT de Lille, dont le local a été complètement défoncé par les forces d'insécurité françaises. Qui sont vraiment venus pour arrêter deux personnes. Enfin, c'était absolument.
Là aussi, on trouve des images sur Internet.
Oui, c'est ça. Regardez-les bien avec les beaux crânes rasés de la police. Hein. C'est à se demander des fois si c'est le Front National ou la police. Des fois, c'est un peu les deux. Et ben voilà. Donc, c'est rassemblement de soutien à 13h30 devant le Comico de Villeurbanne. C'est à la station Gratiel, si je ne me trompe pas. C'est ça?
Gratte-ciel.
Ok, et ben voilà.
Ben moi, j'ai juste en profité quand même pour souligner une chose, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont arrêtés en ce moment et il faut leur apporter un maximum de soutien. Donc tenez-vous au courant sur les différents réseaux que vous connaissez, que ce soit Lyon Rebellion, que ce soit d'autres médias qui existent de par toute la France. Et puis aussi dans les réseaux syndicaux, parce qu'il y a pas mal de syndicalistes aussi qui sont arrêtés. Et on voit bien aujourd'hui qu'il y a une volonté de criminalisation de l'action syndicale globalement. Ou de l'action de lutte. Et ça, quand un État arrive à cette extrémité-là, c'est généralement qu'il n'est pas très très bien et qu'il commence à mouiller ses liquettes, comme on dit. Donc ça vaut peut-être le coup de continuer, parce que ça veut dire qu'à un moment donné, il ne faut pas avoir peur de ces tentatives-là d'intimidation. Et que voilà. C'est un État serein, généralement, n'agit pas comme ça.
Et je me dis que si on fait masse, nombre,
tout à fait.
Plus on sera nombreuses et nombreux dans les rues, et ben peut-être qu'à un moment donné, ils vont fermer leur gueule, ou alors ben, on fera masse. Voilà. Et ben on vous souhaite quoi ? Une bonne soirée, une bonne nuit, ouais. Vu l'heure. Ouais. Et puis une bonne semaine aussi, avec beaucoup de courage pour tout ce que vous entreprenez.
Ouais.
Hein, c'est pas mal dit ça, hein, dis-moi.
C'est bien.
Waouh, j'ai des fulgurances.
Ah, ça nous manquait.
Ça fait longtemps.
Ah, le fou rire.
Ouais, bah vous m'avez filé quand même 5 balles avant pour que je rigole, donc c'est normal, j'assume mon contrat. Je suis en prestataire de service, moi aussi.
Tu veux dire que c'est l'uberisation
de la radio.
Et ben on va s'y quitter quand même. Je vais vous dire, la musique, c'est un petit peu rapide. C'est du 100 et quelques BPM, 169 si ma mémoire est bonne. Et c'est Glao qui va nous interpréter le divorce de Figaro. Voilà.
Voilà.
Et bien,
à la semaine prochaine.
Ouais, merci.
Ou pas pour celles qui ne seront
et
pas là.
Ouais.
Moi, je suis là, moi.
D'accord.
Ok. Donc la semaine prochaine, il n'y a que Clara.
Voilà. Et bien, bonne semaine à toutes et à tous. À plus. Ciao.
Ciao. Ok, c'est bon, tu te sens prête?
Ok, c'est bon.
she pushy lame, they dame, they Billy Willy, Billy fame, they gram, they Billy Wayne. I pushy pushy dream again, I ready, ready, dame, dame, pushy dream, dame, I ready, lady, ready, loody, pushy pushy lame, they dame, they Billy Willy, Billy fame, they gram, they Billy Wayne. I pushy pushy dream again, I ready, ready, dame, dame.